Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La présence catholique se renforce en Afrique et dans une moindre mesure en Asie, tandis que l'Europe est toujours en proie à la crise des vocations, notamment féminines. Mais il y a aussi des exceptions qui confirment la règle. Nous en parlerons dès le début de ce magazine. Les chrétiens veulent apporter leur contribution dans un monde en crise et ils ont leur mot à dire. Au Vatican, le Conseil pontifical Justice et Paix a rassemblé des banquiers et des économistes pour relancer la question sensible de l'éthique financière, tandis qu'à Lourdes, l'Église de France a replacé le service des pauvres au cœur de son action. Dans cette émission également, la colère des chefs des églises de Jérusalem après les brutalités policières du 4 mai. Ils demandent au ministère israélien de l'Intérieur de prendre ses responsabilités et de condamner tous les actes de violence contre les fidèles et le clergé. L'annuaire pontifical 2013 a été présenté au pape François ce lundi matin, un recueil qui suscite toujours un vif intérêt puisqu'il contient de nombreuses données statistiques sur la présence et l'action pastorale de l'Église catholique dans les 2979 circonscriptions ecclésiastiques du monde entier. De manière générale, on constate une réduction de la contribution du continent européen à la croissance potentielle du clergé face à l'expansion des continents africains et asiatique. Olivier Bonnel.
Entre 2010 et 2011, le pourcentage de catholiques dans le monde est demeuré à peu près stable. Il constitue aujourd'hui 17,5% des habitants de la planète. L'analyse géographique révèle une augmentation de leur pourcentage en Afrique et dans une moindre mesure en Asie. Le continent le plus catholique reste toutefois l'Amérique, où vit 48,8% des catholiques du monde entier, suivi en ordre décroissant de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie. En ce qui concerne les évêques, 70% sont américains et européens. Le nombre de prêtres diocésains et religieux a augmenté entre 2001 et 2011, mais cette augmentation est loin d'être homogène. L'Afrique et l'Asie connaissent une dynamique réconfortante, alors que l'Europe a enregistré pendant cette même décennie une diminution de plus de 9%. Le nombre des candidats au sacerdoce a augmenté, là encore la dynamique est très vivace en Afrique et en Asie, autour de 30%, alors qu'en Europe la chute des vocations atteint 21,7%. Le groupe des religieux professe s'est également consolidé. Mais c'est bien au niveau des vocations féminines que la situation est particulièrement alarmante. Entre 2001 et 2011, le nombre des religieuses a globalement chuté de 10%. Le continent le plus touché par cette tendance négative est l'Europe avec moins 22%. Le plus dynamique, au contraire, est l'Afrique avec plus 28%. Le nombre des diacres permanents connaît en revanche une forte expansion au niveau mondial, supérieure à 40%, notamment en Europe et en Amérique, qui comptent à elles seules près de 97% de leur nombre total.
L'annuaire pontifical est réalisé par le Bureau central des statistiques de l'Église. Il sera prochainement mis en vente dans les librairies. On le voit bien, le catholicisme occidental en général et européen en particulier cède le pas au profit du catholicisme des pays du Sud et notamment au profit de l'Afrique. Cependant, il existe un pays européen où il bénéficie d'un dynamisme extraordinaire. Il s'agit de l'Islande, cette île située dans les eaux froides au nord-ouest de la Norvège et de l'Écosse et où les catholiques sont toujours plus nombreux. Monseigneur Pierre Burcher est l'évêque suisse de Reykjavik depuis 2007. Il nous raconte ce qui a changé sur l'île depuis son arrivée.
Ces 10 dernières années, la population catholique en Islande a triplé. Nous avions, il y a 10 ans, environ 3 000 catholiques dans tout le pays. Maintenant, ça a dépassé le cap des 10 000, en tout cas des catholiques officiellement enregistrés. Ça veut dire que cette population catholique est grandissante. Pour vous donner qu'un seul exemple, nous avons 10 fois plus de baptêmes que d'enterrements. Ça provient essentiellement, bien sûr, de la natalité parmi les catholiques, mais aussi du fait de l'immigration et également de la conversion d'un certain nombre de luthériens qui entrent dans la pleine communion de l'Église catholique. Nous avons chaque année un petit groupe qui fait ce passage. Donc, une communauté grandissante et surtout une communauté très jeune, parce que la plupart des catholiques ici en Islande proviennent de la Pologne et ce sont de jeunes travailleurs qui viennent ici pour travailler dans la pêche maritime et aussi dans le tourisme. Nous avons également beaucoup de catholiques en provenance des Philippines. Ça veut dire que la grande majorité de la population catholique est d'origine étrangère.
Beaucoup d'étrangers, aussi des Islandais de souche. Est-ce qu'ils vivent tous près de vous, près de Reykjavik, ou est-ce qu'ils sont étalés vraiment partout sur le territoire?
C'est vrai que la grande majorité, 70%, sont situés dans l'agglomération de Reykjavik. Mais parce que nous avons des catholiques qui sont disséminés tout le long de la côte, cela nous complique bien sûr les choses. Ce sont des villages, des agglomérations de pêcheurs. Et là, nous avons à les rencontrer, à aller auprès d'eux. Je vais aller ces prochains jours justement à l'ouest du pays, à Ísafjörður. Pour s'y rendre, il faut au minimum 6 à 7 heures de voiture. On a la même chose dans l'est de l'île, une paroisse, la paroisse de Saint-Orlac, qui s'étend sur plus de 600 kilomètres, mais avec une population de seulement 600 catholiques. Ça veut dire donc un catholique par kilomètre, voyez-vous.
Mais est-ce qu'il y a assez de prêtres, justement, pour cette pastorale un peu particulière?
Nous avons actuellement, pour nos 10 000 catholiques, 16 prêtres, ce qui semble énorme. Mais lorsqu'on tient compte du fait qu'ils doivent parcourir des distances énormes qui prennent beaucoup de temps, on peut mieux comprendre la nécessité d'avoir un nombre de prêtres suffisant. D'autre part, nous avons aussi la situation suivante des différentes langues. Par exemple, pour les Polonais, nous n'avons que 3 prêtres, mais 3 prêtres pour la grande majorité de la population catholique en Islande, ce n'est pas suffisant. D'autre part, ils sont engagés aussi dans la problématique linguistique. Nous avons beaucoup de textes à traduire. Par exemple, les documents qui nous parviennent de Rome, il est pour nous impossible de tous les traduire. Mais lorsqu'il s'agit de traduire une encyclique ou une exhortation apostolique, qui est-ce qui peut le faire? Ce sont pratiquement les prêtres, parce que c'est eux qui ont la formation théologique, spirituelle et liturgique.
Il y a une vitalité propre à la minorité. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous aussi? Est-ce que les gens sont fiers d'être catholiques?
Les gens qui sont ici, tout spécialement, bien sûr, les Polonais qui sont les plus nombreux, ont cette conscience-là. Ils sont très jeunes et participent très, très volontiers à la messe dominicale. Cette pratique-là est pour les luthériens ici un grand témoignage. Nos frères luthériens ici en Islande sont très peu pratiquants en ce qui concerne la scène dominicale. Nous avons beaucoup de témoignages de luthériens qui disent « Mais c'est extraordinaire, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que c'est possible ?» Voilà pourquoi aussi nous avons chaque année un groupe de luthériens qui entrent dans la pleine communion de l'Église catholique. Donc ce témoignage porte des fruits d'une manière ou d'une autre. La minorité ne se veut pas une minorité militante, mais elle doit être missionnaire et donner le témoignage de sa foi dans le concret de la vie et aussi en ce qui concerne bien sûr la pratique religieuse.
Est-ce que quand même votre voix, justement au niveau des questions de société, est entendue sur la scène publique?
Nous sommes minoritaires puisque la population catholique fait actuellement 3,3% de la population totale, ce qui est vraiment extrêmement minoritaire. Ce qui veut dire que pour se faire entendre, il n'est pas du tout évident de faire du chemin dans ce sens-là. Il s'agit d'un témoignage humble mais efficace. Nous sommes en quelque sorte, c'est vrai, le levain dans la pâte. Un des grands défis pour l'Église catholique en Islande, c'est précisément d'être davantage présente sur la scène politique, puisque malheureusement, actuellement, nous n'avons aucun catholique qui est membre du Parlement. Mais avec 3,3%, c'est très difficile. De plus, il faut dire que dans ce 3,3%, certainement plus que la moitié n'ont pas le droit de vote et d'élection qui est réservé à ceux qui sont islandais.
Donc ils ne sont pas vraiment représentés sur la scène publique. Est-ce qu'il existe comme ça d'autres problématiques pour les catholiques islandais?
Personnellement, quand j'étais en Suisse et qu'on parlait de territoire de mission, évidemment, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Asie qui entre en scène. Mais jamais je ne m'étais imaginé que dans les pays nordiques qui sont vus de l'extérieur comme étant des pays très riches, il serait aussi difficile d'agir pour les membres de l'Église catholique, parce que c'est vrai que dans ces pays riches, ils sont, eux, une population minoritaire et souvent pauvre, puisqu'il s'agit d'immigrés qui viennent travailler ici pour gagner leur vie. Et ainsi, il est difficile quelquefois de se faire entendre à l'extérieur lorsque surtout il s'agit de trouver des aides financières. On dit « Ah, mais non, ça va pas pour les pays nordiques. Nous avons à nous occuper du Sud », ce qui est totalement juste et vrai. Mais lorsqu'on connaît mieux cette réalité des catholiques dans les pays nordiques, on peut et on devrait changer d'avis et se rendre compte que ces régions ont besoin non seulement de l'aide spirituelle, mais aussi de l'aide matérielle de tous les autres pays du monde.
Monseigneur Burchère, interrogé par Marie Duhamel. Il est venu à Rome pour la canonisation dimanche de la nouvelle sainte mexicaine, Mère Lupita. La congrégation qu'elle a fondée est très présente en Islande. Depuis quelques jours, les catholiques de ce pays disposent d'un missel en islandais. Ils avaient déjà une Bible traduite en islandais en 1584 par l'évêque luthérien de Holar, qui possédait une imprimerie. On l'échangeait à l'époque contre 2 ou 3 vaches, c'était son prix. Ils ont désormais leur livre liturgique en langue locale. C'est un grand pas, au moins pour les luthériens qui sont toujours plus nombreux à se convertir au catholicisme. Je vous le disais en titre, les responsables des églises chrétiennes de Jérusalem ont dénoncé dimanche la punition brutale infligée par la police israélienne à des prêtres et des pèlerins au cours des célébrations du feu sacré pendant la Pâque orientale le samedi 4 mai. Dans un communiqué, ils affirment avoir assisté avec tristesse à des scènes terribles ce jour-là dans la vieille ville de Jérusalem. Les chefs des églises de Jérusalem, dont le patriarche latin Mgr Foitoile, appellent le ministère israélien de l'Intérieur et la police de Jérusalem à examiner sérieusement leur plainte. Thomas Chabol.
Un jour de joie et de célébration a été transformé en un jour de peine. Des fidèles ont été maltraités par des policiers israéliens présents autour des portes de la vieille ville et des ruelles qui mènent au Saint-Sépulcre. Les chefs des églises de Jérusalem déclarent comprendre la nécessité et l'importance de la présence des forces de sécurité pour assurer l'ordre et la stabilité, mais il est inacceptable que le clergé et les fidèles soient battus brutalement et sans discernement et qu'on les empêche d'entrer dans leurs églises, leurs monastères et leurs couvents. Chaque année, les mesures de police sont de plus en plus sévères. Les responsables chrétiens demandent que ces accidents ne se répètent pas, que la police soit plus sensible et respectueuse et que les autorités israéliennes permettent le plein accès aux lieux saints pendant la semaine sainte des 2 calendriers religieux. Le ministère israélien des Affaires étrangères avait dû présenter des excuses officielles à l'Égypte à la suite de violences policières contre 3 diplomates égyptiens, mais aussi un prêtre copte brutalisé le samedi 4 mai en marge de la cérémonie du feu sacré à la basilique du Saint-Sépulcre. Des incidents similaires se sont répétés ces dernières années au moment de Pâques dans la vieille ville située à Jérusalem-Est occupée.
Le Saint-Siège souhaite que la société civile, les États et les multinationales agissent de concert pour mettre en place un système financier orienté vers le bien commun. C'est le président du Conseil pontifical Justice et Paix qui l'a affirmé lundi matin à l'ouverture d'un séminaire sur l'éthique bancaire réunissant au Vatican des banquiers, des chefs d'entreprise et des économistes. Tous sont d'accord sur l'urgence d'une meilleure distribution des richesses, mais les avis divergent sur la manière d'y parvenir. Antonino Gallofaro.
Le cardinal Peter Turkson constate le déclin du concept de solidarité européenne. Il pointe du doigt la myopie de certains comportements nationalistes qui minent le projet européen. L'idée d'une supervision des banques européennes a perdu de sa force. Il est urgent, selon lui, d'aller à la racine de la crise. Le président du Conseil pontifical Justice et Paix propose une politique des petits pas en commençant par favoriser la supervision des systèmes bancaires au niveau national, par pays. Au cours du séminaire, des voix chrétiennes se sont élevées pour demander davantage de rigueur. Le président de l'Organisation internationale des entrepreneurs chrétiens a ainsi invité les grands groupes à éviter d'accorder des primes aux dirigeants qui encouragent des comportements superficiels. Je ne suis pas très satisfait de la décision de la Commission européenne d'accorder un sursis de 2 ans à l'Espagne, à la France et à d'autres pays. Je pense que nous devons nous en tenir à une politique plus rigoureuse et commencer par assainir les finances publiques, même si cette politique risque d'entraîner des tensions sociales. Faute de quoi, la dette publique des États ne cessera d'augmenter. D'autres économistes, au contraire, proposent de miser davantage sur le développement et d'aider les familles et les entreprises plutôt que les banques. Pour l'Église catholique, une chose est sûre, il faut aider les pauvres et garantir la paix et le respect de la création. Selon le cardinal Turkson, le principe de subsidiarité n'est pas négociable.
En France, plus de 12 000 personnes accompagnées de 86 évêques ont participé du 9 au 11 mai à Lourdes au rassemblement Diaconia 2013 pour lutter contre l'exclusion et la pauvreté et promouvoir la réciprocité des échanges. C'était le point d'orgue d'une démarche inédite lancée il y a 2 ans par l'Église de France. La totalité des diocèses était représentée. 3 000 personnes en situation de grande précarité étaient également présentes, prisonniers, gens du voyage, migrants, malades ou handicapés. Monseigneur Bernard Rousset, président du Conseil national de la solidarité, a invité à refuser le fatalisme face à la crise. Des propositions et des suggestions ont été formulées dans une ambiance festive et fraternelle. Manuela Affigi a interrogé Sœur Elisabeth, membre de la coordination nationale de Diaconia 2013.
Début de la démarche, en fait, on a lancé appel à témoins. Cet appel à témoins a fait émerger, par exemple, dans une paroisse, le curé a demandé au conseil pastoral de vivre cette démarche avant de le proposer à l'ensemble des paroissiens. Et en vivant cette étape-là, tout à coup, il y a un des membres de l'équipe qui commence à lui dire « Mais moi, ma plus grande souffrance, c'est de ne pas pouvoir aller à la messe tous les dimanches. » Les autres l'ont regardé avec des grands yeux en disant « Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller à la messe ?» Et tout à coup, il a dit « Mais moi, je n'ai pas de voiture. Donc, lorsque la messe est loin, je ne peux pas y participer. » Tout à coup, le conseil pastoral a réalisé que tout à côté d'eux, il y avait des personnes qui étaient en souffrance et qu'il fallait faire quelque chose. Alors ils ont très vite pensé à un covoiturage. Le covoiturage s'est mis en place. Puis tout à coup, la mairie s'est dit « Mais tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui est en train de bouger. » La mairie est allée rencontrer le prêtre de la paroisse et lui a dit « Mais qu'est-ce qui est en train de se vivre? Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et chemin faisant, en fait, cette vie communautaire qui a commencé à se soutenir, à vivre des choses, parce que dans une voiture, quand on est dans un lieu contraint, on fait un peu plus connaissance, on discute de tout et de rien. Eh bien, il y avait une communion qui était en train de grandir, ça c'est vraiment des mots cathos, mais c'est vraiment ça qui est en train de se vivre. Et du coup, la mairie s'est dit, mais il y a quelque chose de bizarre. Et tout à coup, 2-3 mois après, la communauté de communes a choisi de mettre un covoiturage en place. Voilà, des choses toutes simples qui concernaient une personne qui a osé dire sa fragilité, et qui a été entendu par un autre groupe de personnes, et tout à coup, quelque chose qui était un besoin personnel est devenu une proposition et un acte de solidarité qui était largement au-delà de l'Église, largement au-delà de ce que nous aurions pu espérer. Voilà, ça fait partie d'une réaction concrète qui est encore en train d'évoluer. Une toute petite, et quand il y en a des petites comme ça un peu partout, alors on se dit que demain peut-être, nous aurons une société un peu plus juste et fraternelle.
Sœur Elisabeth est membre de la coordination nationale de Diaconia 2013. Le Vatican accueille cette semaine l'Assemblée générale annuelle des œuvres pontificales et missionnaires. Les participants venus de quelque 150 pays seront reçus vendredi par le pape François. À l'ouverture des travaux, le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples a évoqué les situations dramatiques de persécution, de pauvreté, de violence, de conflit et de marginalisation de certains pays où les missionnaires exercent leur apostolat. D'où la nécessité, selon le cardinal Filoni, de revoir les méthodes de l'action évangélisatrice. Cela passe aussi par un retour à la radicalité évangélique. Le problème des inégalités sociales en Colombie ainsi que le processus de paix entre le gouvernement et la guérilla ont été évoqués ce lundi matin au Vatican. Au lendemain de la canonisation de la première sainte colombienne de l'histoire, Madre Laura, le président colombien Juan Manuel Santos, qui avait fait le déplacement pour l'occasion, a été reçu au Vatican d'abord par le pape François, puis par le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone, accompagné du secrétaire pour les rapports avec les États, Monseigneur Dominique Mamberti. Les entretiens Dieu ont porté sur la figure de Mère Laura, interprète féconde des racines chrétiennes du pays, ainsi que sur la contribution de l'Église à la promotion d'une culture de la rencontre et sur ses activités au service du développement humain et spirituel, en particulier auprès des jeunes et de ceux qui sont dans le besoin, et enfin en faveur de la vie et de la famille. En ce qui concerne le processus de paix actuellement en cours, le Saint-Siège souhaite que les parties poursuivent leurs négociations dans la recherche sincère du bien commun et de la réconciliation. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Merci de nous avoir suivis.